On ouvre notre deuxième partie consacrée à Amos Oz. Il faisait partie de la première génération d'écrivains israéliens ayant l'hébreu pour langue maternelle. Amos Oz s'est éteint vendredi à Tel Aviv à 79 ans. Romancier, officier de réserve, militant pacifiste, son histoire se confond avec celle du pays. Né Amos Klosner de parents immigrés ukrainiens en 1939 dans une Jérusalem occupée par les Anglais, il avait assisté à 9 ans à la naissance d'une nation. 3 ans plus tard, le suicide de sa mère avait conclu prématurément sa jeunesse. Ce drame sera d'ailleurs au cœur de ce qui restera son chef-d'œuvre. Une histoire d'amour et de ténèbres. Cette figure de la gauche sioniste, fervent partisan d'une solution à deux États, laisse derrière lui un message de paix et de fraternité. Bonjour Marc Weisman.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Vous êtes journaliste, écrivain, producteur de l'émission Signe des temps sur France Culture. En Israël, les hommages se sont multipliés depuis la disparition d'Amos Oz. Le président a dit son immense tristesse, le qualifiant de géant de la littérature. Même le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que, bien que n'ayant pas les mêmes idées, il appréciait profondément sa contribution à la langue et à la littérature israélienne. Les réactions des derniers jours en Israël et peut-être un peu partout dans le monde montrent combien il avait une place à part dans la littérature israélienne et en fait dans la littérature tout court.
Oui, Amos Oz était un fils d'immigré, hein. C'est-à-dire que ses parents parlaient mal hébreu et lui, par son travail et par son œuvre, a contribué à façonner littéralement cette langue. En faire quelque chose de moderne. Donc il est vraiment un des créateurs de la littérature contemporaine israélienne et donc de la littérature contemporaine hébraïque. C'est une des premières choses qu'on peut dire. L'autre, c'est que
c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il se disait lui-même hébreu. Il disait je suis pas israélien, je suis pas juif, mais je suis hébreu. L'identité d'Amos Oz, c'était d'abord
pas juif. Ça s'inscrit dans un débat qui est très très important pour l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'il est de cette génération. Il était né en 39, hein, donc il a grandi dans une conception du sionisme qui était vraiment le sionisme des origines, un sionisme socialiste, étatiste, et dont le but spirituel, pour ainsi dire, était de faire sortir les Juifs, de faire entrer les Juifs dans l'histoire et de les faire sortir du destin juif. De ce point de vue-là, les Israéliens de cette génération, enfin les leaders sionistes, ne cherchaient pas spécialement à être Juifs, ils cherchaient à devenir Israéliens. C'est très particulier. Et une bonne partie du travail d'Amos Oz s'inscrit dans cette problématique. On va en parler parce que c'est une question importante.
Oui, Amos Oz, c'est probablement l'auteur le plus représentatif de cette génération dite de l'État, né un petit peu avant la création de l'État d'Israël. Son œuvre est traversée, vous le disiez, par ce rêve sioniste collectif. Et c'est d'ailleurs parce que Israël est né d'un rêve qu'il a pu parfois ressentir une certaine déception. Je le cite, les autres pays ne se sont pas construits sur des rêves, mais sur des réalités démographiques, politiques, géographiques. Parce qu'Israël est né du rêve, il est forcément décevant. La déception n'est donc pas liée à la nature d'Israël, mais à l'accomplissement du rêve qu'il a porté.
Oui, mais Amos Oz était pour la déception. Il faut bien comprendre qu'il disait qu'il était né que dans sa famille les gens avaient de grands rêves, de grands projets pour refaire le monde, mais qu'ils étaient incapables d'attacher leurs lacets, par exemple. Et lui, il s'intéressait aux lacets détachés, c'est-à-dire qu'il s'intéressait aux détails. Son maître en littérature, c'était Tchekhov. Et donc tout son travail, ça consiste à tout le travail d'Amos Oz dans ses livres consistait à faire la différence entre le rêve et les petits détails de la réalité prosaïque. C'est à partir de là que sa démarche politique prend sens, parce que son père était plutôt un sioniste dur du leader sioniste Vladimir Jabotinsky, qui était plutôt de droite. Et lui, après le suicide de sa mère, effectivement, s'est investi dans les kibbutz plutôt de gauche. Mais tout son parcours politique est sous-tendu par cette idée qu'il faut confronter les grands rêves au prosaïque de la réalité, aux petits détails, aux petites choses. Et de ce point de vue, il s'inscrit dans une grande tradition juive, pour le coup. C'est-à-dire que la fameuse phrase de Joyce, hein, l'histoire est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller, l'idée que le sionisme est l'entrée des juifs dans l'histoire par le rêve. Amos Oz cherche à sortir de cette histoire à travers des petits détails pour retrouver le quotidien prosaïque. Et du coup, il tombe également sur la réalité arabe, palestinienne. Et donc, le dialogue à partir de là peut s'engager, mais c'est toujours un dialogue extrêmement humble sur des détails aussi, sur les êtres, sur la vie des êtres.
Vous parliez de son père. Son père était un spécialiste de littérature hébraïque, employé de bibliothèque. Sa mère donne des cours de littérature et d'histoire dans un lycée, donc un milieu modeste, mais un milieu intellectuel, de droite. Il était baigné dans un environnement nourri par ce sionisme nationaliste. Il dira plus tard qu'enfant, il était un petit chauvin déguisé en pacifiste. C'est ce qu'il dit, ce qu'il raconte dans une panthère dans la cave. Ouais. Alors qu'il a une douzaine d'années, peut-être qu'il faut parler de ce moment-là. Donc sa mère, évidemment, se suicide au terme d'une longue dépression. C'est une longue, terrible déflagration qui va ensuite être suivie par une prise de distance avec son père. Et c'est quand il a 14-15 ans qu'il décide de s'installer dans un kibboutz. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'il y cherche et qu'est-ce qu'il y trouve?
Ah ben ça, il faudrait lui demander. Ce qui est sûr, c'est que le suicide de sa mère, d'abord, c'est pas quelque chose d'unique. Hein. Je crois que la mère d'Ariel Sharon s'était également suicidée. Il faut bien voir que la vie de ces gens qui étaient, c'était les sionistes, les militants sionistes, c'était des gens très jeunes qui avaient tout quitté, qui étaient dans un pays qui ne connaissaient pas. Il y avait un sentiment de déracinement. La vie était très très dure. Et les grands rêves suffisent pas toujours à nourrir le quotidien. Je pense que c'est le suicide de la mère d'Amos Oz de ce point de vue fait figure de moment fondateur pour lui. Donc dans cette confrontation justement entre les grands projets et ce qu'est la vie finalement. Donc il s'engage, à partir de là, Amos Oz s'est engagé effectivement un peu dans le à gauche et d'abord dans les kibboutz, ce qui l'a pas empêché de faire l'armée. Hein, il a fait deux guerres. Il était profondément sioniste, mais sa conception, il faut bien voir ce qu'était Israël à l'époque. Israël, c'était vraiment un pays collectiviste, où la vie, où l'existence individuelle avait peu d'importance par rapport au projet au projet national. Projet national, non pas nationaliste au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais vraiment au sens socialiste, d'idéologie socialiste. Dans le kibboutz, Amos Oz retrouvait quelque chose de ça. C'est-à-dire que les kibboutz étaient des structures de vie collective socialiste, où la vie individuelle avait peu d'importance. Tout son travail, ça consistait à faire ressortir ces contradictions, à faire émerger la subjectivité individuelle au sein de ces structures.
D'ailleurs, ce microcosme collectiviste, c'est le théâtre de plusieurs de ses livres. Les Terres du Chacal, son premier recueil de nouvelles, paru en 65. Ailleurs peut-être, son premier roman, mais aussi Un juste repos, La boîte noire, ou encore Entre amis, tout ça. Voilà, on voit cette utopie collectiviste qui est quelque chose qui va l'habiter dans toute sa vie et toute son œuvre. C'est dans ce qu'il
mais qu'il critique, hein.
Mais qu'il critique en même temps.
Il la critique. Il encore une fois son parcours. Il la critique comme un romancier le fait. C'est pas un théoricien. Il s'agit de faire ressortir les destins individuels. Vraiment la démarche elle est tchékovienne. Il opposait le lyrisme shakespearien aux pièces de Tchékov. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait c'était vraiment les vies individuelles face aux structures collectives. Comment sortir de l'embrigadement guerrier, comment sortir de la nécessité de l'embrigadement, c'est-à-dire que la tragédie d'Israël, la tragédie le sionisme est une tragédie pour les Juifs. Et Amos Oz avait clairement conscience de ça. C'est-à-dire que le sionisme, c'est le moment où les Juifs doivent accepter de s'embrigader dans l'histoire. Et c'est un déchirement. Et Amos Oz faisait partie de ces écrivains qui essayaient de faire ressortir, de se libérer de se libérer un peu de cet engagement pour essayer de retrouver une subjectivité individuelle et pour retrouver une certaine forme de liberté dans cette nécessité qu'est le sionisme.
Marie Weitzman, je vous propose de réécouter justement la voix d'Amos Oz. En 2017, Olivia Gesbert l'avait rencontré après la parution de son dernier roman, Judas, qui est paru chez Gallimard. Écoutez ce qu'il disait à propos de la violence.
יש לי קרובת משפחה.
J'ai une parente.
שהייתה במלחמת העולם השנייה במחנה ריכוז נאצי.
Qui était dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.
והיא תמיד הייתה מזכירה לנו.
Et elle nous a toujours rappelé.
שמי ששחרר אותה מטרזיינשטאט.
Que ceux qui l'ont libérée de Theresienstadt.
זה לא היו מפגינים עם שלטים
ועלי זית. Ce n'était certainement pas des manifestants qui portaient des pancartes et des feuilles d'olivier.
אלא חיילים עם קסדות ותת מקלעים.
Mais c'était des soldats qui avaient leurs casques et leurs armes.
את זה אני מזכיר לעצמי.
C'est quelque chose que je me rappelle.
כאשר אני חושב כמה החלום של אברבנאל הוא מתוק.
Lorsque je pense à quel point les rêves d'Abravanel ou de Jésus sont doux.
אני אוהב מאוד את החלום הזה.
J'aime beaucoup ce rêve.
האם אני יכול להשתתף בו? לא.
Est-ce que je peux y participer? Non.
Si
quelqu'un essaye de vous attaquer violemment dans la rue, et je suis là, moi aussi, et je peux par la force empêcher cela, eh bien je vais le faire par la force. L'idée de tendre la deuxième joue, c'est une très belle idée. Mais
ce
n'est pas moi.
On entend dans cet extrait Marc Weizmann, alors évidemment Amos Oz était un pacifiste, défenseur de la paix, mais il ne rejette pas complètement pour autant la violence.
Non, mais c'est ça, c'est ce que j'essayais de dire, c'est très intéressant cet extrait. Hein. Le pseudonyme qui s'est choisi, Oz, signifie force. Je disais que le sionisme était une tragédie, et c'est ce qui montre le destin juif d'avant Israël est un rêve ahistorique. Les juifs ne sont pas dans l'histoire, ils sont simplement dans un rapport à Dieu. C'est ce qu'il dit à travers Abravanel, Jésus, etc. Ces figures-là. Et la tragédie juive contemporaine, c'est la nécessité de la force, la nécessité d'assumer la violence, parce que sinon on vous tue. Donc il y a aucune.
D'ailleurs, il va directement s'engager. Il faut rappeler qu'il a participé à la guerre des six jours.
Hein. À la guerre de 67, à la guerre de 73, c'est un soldat.
Et il reconnaît. Et ce n'est pas un antimilitariste.
Pas du tout. C'est quelqu'un qui reconnaît la nécessité de la violence, mais c'est pas une violence euphorique. C'est une violence tragique, et de même que les pères fondateurs du sionisme, les premiers leaders sionistes n'étaient pas des gens optimistes et heureux, hilars à l'idée d'avoir créé Israël. C'est des gens profondément qui avaient une conscience profondément tragique de ce qu'ils faisaient, et qui voyaient la création d'Israël comme le résultat du mal. L'histoire avec un grand H est considéré comme une manifestation du mal avec un grand M. Mais c'est un mal auquel il faut participer parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on vous tue. Cette conception-là, elle est centrale dans l'évolution d'Amos Oz, et pas seulement dans la sienne. Aaron Appelfeld, il y a quelque chose de commun. On voit dans ses livres quelque chose de similaire dans le refuge, dans le rêve, par exemple, de certains de ses personnages, qui est ce rêve qui rappelle l'exil, qui était une autre patrie, l'exil d'avant Israël, qui est une autre forme de patrie, qui n'est plus possible. Donc Israël, pour ces écrivains juifs, et certainement pour Oz, c'est l'entrée tragique dans l'histoire avec sa part avec sa part noire. La question qui se pose à partir de là, c'est comment, au sein de cette tragédie, faire valoir quelque chose d'humain. Comment ne pas se laisser entraîner dans l'ivresse de la violence qui existe et dans le plaisir de la violence qui est une réalité.
Et comment construire aussi la paix? À la fin des années 70, il contribue à la fondation avec 300 officiers de réserve du mouvement La Paix Maintenant, Shalom Arshav, dont il devient l'un des leaders. La paix est inévitable, disait-il. Mais comment voyait-il justement ce chemin vers la paix? Quelles en étaient les modalités? Rappelez-nous ça.
Amos Oz fait partie de cette génération qui est vraiment la naissance de la gauche en Israël telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la naissance de la gauche d'après 67, d'après la guerre des six jours, quand Israël se retrouve en situation d'occupation dans les territoires, en Cisjordanie, et donc découvre une population palestinienne, une population arabe. Et à partir de là, il s'agit de parler avec eux, et Amos Oz va prendre la tête avec d'autres de ce mouvement pour tenter d'établir un dialogue, et puis d'établir progressivement un mouvement pour la paix maintenant, dépasser la nécessité de la violence pour trouver autre chose. Et ils sont au départ considérés comme des traîtres, enfin en tout cas au départ c'est un mouvement extrêmement clandestin. Mais la notion de traître n'a pas le même sens que ce qu'on entend aujourd'hui par là. À l'époque, il y a une notion de trahison parce que le pays est encore, faut bien voir qu'Israël, jusqu'en 67, est un tout petit pays. Il a été attaqué plusieurs fois. Donc il y a la notion d'instinct vital qui est très présent. On est 20 ans après la Shoah aussi. Donc, les gens comme Amos Oz prennent un très grand risque. En allant parler avec l'ennemi, en essayant de construire un mouvement pacifique qui n'est pas encore pacifique, mais qui est, c'est-à-dire que c'est pas la paix comme but, c'est la paix comme cheminement. Il faut arriver, il faut dépasser la violence. C'est pas une catégorie morale, c'est une catégorie. La paix fait partie de la guerre en quelque sorte. C'est parce qu'on fait la guerre qu'il faut arriver à un moment donné à ne plus la faire.
Et pour arrêter de faire la guerre, il y a évidemment le dialogue, mais il y a aussi, et c'était ce qu'il défendait, créer deux États. C'était sa grande idée. Je propose d'écouter un nouvel extrait, justement, toujours de cet entretien qu'il a eu en 2017 avec Olivia Gezmer, des entretiens, un entretien inédit.
Les Israéliens et les Palestiniens, tout d'abord, ils ont besoin de deux États. Peut-être après un marché commun. Peut-être après un genre de fédération. Et peut-être plus après. Mais il est absolument impossible de faire l'amour sous la menace des fusils. C'est en fait quelque chose qui doit évoluer. Ce n'est pas quelque chose de radical, de soudain. À ce que l'on se fasse la cour. Je crois à la patience. Je crois que faire la paix, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais c'est comme lorsque l'on essaye de guérir une plaie, un médecin, un bon médecin, jamais vous dire, vous prenez ce comprimé, dans 5 minutes, vous êtes guéri. Les Israéliens et les Palestiniens ont encore un chemin difficile à parcourir.
Voilà, on va retrouver un nouvel invité par téléphone depuis Tel Aviv, Elan Grelsamer, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. À ceux qui accusaient Amos Oz d'être un idéaliste en considérant que la solution à deux États n'était plus réaliste et qu'il fallait se résigner à l'option d'un État binational, Amos Oz répondait que l'idéalisme était plutôt dans l'ambition de faire cohabiter dans la paix deux peuples qui se faisaient la guerre depuis des décennies. De son point de vue, en tout cas, la solution à deux États n'était pas idéaliste et utopique, mais totalement pragmatique. Et pour lui, d'ailleurs, il n'y avait pas d'autre solution. Quel regard vous portez sur cette analyse? Est-ce que vous diriez qu'en effet, nous avons tort finalement de penser que la solution à deux États ne serait plus viable aujourd'hui?
Bon, vous évoquez ici une grande controverse au sein de la gauche israélienne, de la gauche intellectuelle israélienne, quant à ce que devrait être une solution du conflit israélo-palestinien. Ça fait déjà pas mal d'années que la gauche israélienne, et la gauche, je pense, dans le monde, soutient la solution des deux États, l'État d'Israël, État juif avec minorité arabe à l'intérieur d'environ 20% de Palestiniens, et à côté un État palestinien, la solution des deux États pour les deux peuples. Or, dans les dernières années, un certain nombre de voix commencent à s'élever et à dire que ce n'est pas réaliste aujourd'hui, avec la présence de près de 2 millions de colons en Judée-Samarie, en Cisjordanie, avec l'évolution Hamas, autorité palestinienne, cette solution des deux États, on s'en éloigne, et des voix, enfin la voix la plus célèbre, c'est celle de l'écrivain israélien Avraham Yoshua, qui était un grand ami d'Amos Oz, mais qui a dit ce n'est plus réaliste, il faut penser à une solution d'État binational. C'est une controverse qui existe. Je pense que la grande majorité des Israéliens de gauche, du camp de la paix, suivent quand même encore l'orientation d'Amos Oz pour les deux États.
Ilan Grelsamer, Amos Oz avait écrit un essai intitulé « Aidez-nous à divorcer », qui était paru chez Gallimard en 2004, dans lequel il expliquait notamment que s'il était européen, il s'efforcerait d'essayer d'aider Israéliens et Palestiniens à faire la paix plutôt que de critiquer les uns et les autres. C'est aussi ça le drame de ce conflit, qu'il n'y a plus personne finalement pour aider à le résoudre, il n'y a plus de médiateur possible.
Oui, on peut tous être d'accord sur le fait que toutes les forces de paix dans le monde, et en Europe en particulier, devraient aider Israéliens et Palestiniens à se rapprocher, à mieux se comprendre, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être réaliste, il faut voir la situation. La situation est que, en Israël, la droite a de plus en plus une majorité, c'est-à-dire que les solutions de force, de coercition, de colonisation, etc., gagne au sein de l'opinion publique israélienne, et en même temps, chez les Palestiniens, il y a une radicalisation manifestée par la montée du Hamas, qui aujourd'hui, s'il y avait des élections en Cisjordanie, je pense, les gagnerait contre le Fatah et contre l'autorité palestinienne. Donc il y a une montée des radicalismes qui fait que même si on se donnait du mal pour faire se rencontrer les uns et les autres, je ne suis pas sûr que ça donnerait grand-chose. La situation, disons, pour le camp de la paix, ça, c'est mauvais.
Vous parlez de montée du radicalisme, Ilan Greslamer. Dans Cher fanatique, cette fois, qui est un livre qui est paru en octobre dernier chez Gallimard, voilà ce qu'écrit Amos Oz. Sans l'option rapide de deux États, il est fort probable qu'afin d'empêcher l'établissement d'un État arabe coincé entre la Méditerranée et le Jourdain, s'instaure une dictature temporaire de juifs fanatiques, un régime raciste qui opprimera à la fois les Arabes et ses opposants juifs. C'est ça qui menace Israël, le glissement vers un régime autoritaire, voire dictatorial ? Ça sera ma dernière question.
Non, je ne pense pas qu'il y ait un glissement de ce genre. Il y a le fait que, de plus en plus, si cette colonisation et cette occupation continuent, comme actuellement, il y a un risque, effectivement, d'apartheid. C'est-à-dire que en Cisjordanie, les Juifs, les colons, auront des droits que n'auront pas les Arabes palestiniens. Ça, c'est le risque. Le risque n'est pas tellement d'un régime dictatorial en Israël, non. Mais encore une fois, je dirais simplement qu'il y a le point de vue d'Amos Oz, qui est le point de vue idéaliste, intellectuel, les deux États, nous sommes tous pour ça. Mais il y a la réalité politique en Israël et chez les Palestiniens, qui ne va malheureusement pas du tout dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle le décès d'Amos Oz est assez concomitant à la mort de beaucoup d'espoirs que nous entretenions et les Palestiniens modérés également.
Marc Weitzman, peut-être une réaction.
Oui, je pense que le moment d'Amos Oz, si on peut dire, en fait, de cette génération, ça a été les années 90. Ça s'est réalisé dans les années 90 avec les négociations de paix autour du processus d'Oslo. Le refus des Palestiniens, et clairement de l'autorité palestinienne de Yasser Arafat, de conclure ces accords en septembre 2000, au déclenchement de la deuxième intifada, quand les Palestiniens ont refusé le partage de Jérusalem en deux à l'issue du plan Clinton en septembre 2000, a été pas seulement la fin du processus de paix, mais la fin de la gauche. Ça a signé la fin de la gauche, de la génération d'Amos Oz, et la fin des espoirs d'un État palestinien. Il n'y aura pas d'État palestinien aujourd'hui, c'est clair. C'est pratiquement impossible parce qu'il n'y a plus de leadership et parce qu'il n'y a plus de gauche qui a été décapitée à ce moment-là. Donc là, de ce point de vue, le sionisme tel que le connaissait la génération d'Amos Oz, et pas seulement la sienne, mais celle des leaders historiques de l'État, c'est-à-dire aussi bien Rabin que Pérez, que même Ariel Sharon, ce sionisme-là est en train de disparaître. C'est-à-dire que c'était, quelles que soient leurs opinions politiques, j'inclus même les leaders de droite comme Menachem Begin ou Ariel Sharon, c'était des gens qui avaient la conscience de d'où ils venaient, une grande conscience de la tragédie historique d'où provenait Israël. Aujourd'hui, le courant nationaliste qui naît en Israël, qui débouchera beaucoup moins, à mon avis, sur une dictature que sur une espèce de régime bâtard, comme on le voit partout ailleurs, à mi-chemin entre une espèce de néo-mauracisme et un globalisme de fait, enfin plus le bordel qu'autre chose. Cette espèce de courant néo-nationaliste est en train d'oublier le destin juif dont il procède, et au bénéfice d'un pur arabisme à court terme. Et les Palestiniens, ce qui reste des Palestiniens, est en train de faire la même chose. C'est juste une lutte pour le pouvoir aujourd'hui. Il n'y a plus aucune perspective.
Merci beaucoup, en tout cas, à Ilan Greslamer d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle, professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. Le grand livre d'Amos Oz, c'est une histoire d'amour et de ténèbres, paru chez Gallimard, un succès international, le plus grand succès de la littérature hébraïque contemporaine, traduit en une trentaine de langues. C'est un récit autobiographique, on y retrouve l'histoire de ses aïeux, de son enfance, de sa vie au kibbutz, mais c'est aussi le récit au fond de l'émergence de la nation israélienne. Je propose d'écouter un extrait d'une lecture, le début justement de son roman.
Je suis né et j'ai grandi dans un rez-de-chaussée exigu, bas de plafond, d'environ 30 mètres carrés. Mes parents dormaient sur un canapé qui, une fois ouvert pour la nuit, occupait presque entièrement l'espace d'un mur à l'autre de la chambre. De bon matin, Il l'escamotait, dissimulait la literie dans les ténèbres du coffre. Il rabattait le matelas, repliait et refermait l'ensemble avant de le recouvrir d'une housse gris clair où il jetait quelques coussins orientaux brodés, effaçant les traces de la nuit. La pièce servait à la fois de chambre à coucher, de bureau, de bibliothèque, de salle à manger et de salon. La pénombre régnait dans les deux chambres, la kitchenette, la salle de bain et surtout le couloir de communication. Il y avait des livres, partout. Papa lisait 16 ou 17 langues et en parlait 11, avec l'accent russe. Maman en parlait 4 ou 5 et en lisait 7 ou 8. Ils discutaient en russe et en polonais quand ils ne voulaient pas que je comprenne, ce qui était pratiquement toujours le cas. « Что с тобой? Видит мальчик рядом с нами? » Qu'est-ce qui te prend? Tu ne vois pas que le gosse est là? S'emporta papa en russe un jour que ma mère avait lâché par mégarde en hébreu le mot étalon en ma présence. Pour la culture, il lisait surtout en allemand et en anglais, et rêvait probablement en yiddish. Mais à moi, ils n'enseignèrent que l'hébreu. Peut-être craignait-il que je succombe à mon tour au charme de la belle et fatale Europe si j'en connaissais les langues.
Extrait des pages arrachées à Amos Oz, une émission diffusée sur France Culture en 2008 avec des textes choisis par Valérie Zenati. On va retrouver justement Valérie Zenati. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivaine, scénariste, traductrice notamment d'Aaron Appelfeld et puis président de la commission littérature étrangère du Centre National du Livre. Vous avez passé une partie de votre jeunesse en Israël, une expérience qui vous a considérablement marqué, qui vous a permis aussi de vous plonger dans cette littérature israélienne qui ne vous a jamais quitté. Ce livre, Une histoire d'amour et de ténèbres, pourquoi finalement il a cette place à part dans l'œuvre d'Amos Oz selon vous?
Je pense que c'était peut-être la première fois qu'il prenait la parole de manière autobiographique avec autant de sincérité, et je pense qu'il a fallu du temps pour lui pour dévoiler la blessure dont parlait tout à l'heure Marc Weitzman, c'est-à-dire le suicide de sa mère, parce que lorsqu'il a commencé à écrire, il a commencé à écrire en cachant cette blessure et en la montrant à la fois, comme beaucoup d'écrivains. Dans son premier roman, Mon Michael, enfin un de ses premiers romans, les premières phrases c'était « J'écris parce que les gens que j'aimais sont déjà morts ». Mais ça, il ne pouvait pas le dire encore. Il le dit à la place de son héroïne, Hannah Gonen, mais il ne pouvait pas le dire encore en étant Amos Oz lui-même, parce que je pense qu'idéologiquement, c'est très difficile. Et ce récit s'est imposé dans la deuxième partie de sa vie, parce qu'il était temps, je crois, pour lui de dévoiler la blessure qui était à l'origine de son écriture.
Oui, vous disiez une sincérité, mais aussi peut-être une certaine noirceur. Dès le début du récit, Amos Oz nous décrit un environnement très dur, dans un quartier populaire de Jérusalem, avec une certaine pauvreté, de la promiscuité, avec un multiculturalisme qui produit des différends, qui produit des tensions sociales. Il y a une vraie noirceur, voire une forme peut-être de désenchantement devant la réalité de ce pays qui n'est pas encore une nation.
Oui, bien sûr. Et de toute façon, cette noirceur se trouve dans le titre, mais en clair-obscur, puisqu'on a une histoire d'amour et de ténèbres. Et l'amour est là comme le contrepoint des ténèbres et comme évidemment cette lumière qui va bientôt être perdue. Je pense qu'il y a quelque chose qui se confond dans cette vision. C'est à la fois la réalité de Jérusalem dans des années très dures et sombres, et puis la mort de sa mère qui va arriver très vite et qui peut-être rétrospectivement noircit aussi ces années-là.
On compare parfois Valérie Zenati à Amos Oz à Camus. On dit même que c'est le Camus israélien. Est-ce que c'est une comparaison qui vous semble tenir?
Alors, lui-même ne s'en réclamait pas, donc je ne sais pas si de l'extérieur, je pense qu'il est plus proche des auteurs russes, qu'il aimait beaucoup, qu'il lisait beaucoup. Marc Weitzman évoquait tout à l'heure Tchekhov, je crois. Il a un sens des descriptions qui va plus du côté des auteurs russes. En revanche, ce qu'il avait peut-être, c'était l'oreille de Camus pour l'ironie, pour débusquer ce qui se cachait sous une simplicité apparente du langage. Je pense qu'Amos Oz a fait partie donc de ces écrivains de la génération de l'État, comme on les appelait, qui ont très vite été confrontés à la dimension idéologique de l'hébreu, à l'utilisation idéologique de l'hébreu, et donc qui ont tenté de débusquer le mensonge derrière les apparences. Et donc, en ce sens, il se rapproche peut-être d'Albert Camus.
Oui, et le mensonge aussi peut-être derrière les mots. Il y a un souci des mots, peut-être, qui rassemble Camus et Amos Oz. Il y a évidemment, cette célèbre phrase de Camus, mal nommé les choses, s'est ajoutée au malheur du monde. Avril dernier, Amos Oz avait fait une interview au Point, et écoutez, il se disait lui-même, il disait qu'il était un détecteur de fumée de la langue hébraïque. Et il disait exactement, je le cite, « Très souvent, j'ai écrit des articles en réaction à ce qui me semblait être une perversion de la langue. Par exemple, il y a 50, 60 ans, lorsque j'ai entendu des gens parler de territoire libéré, j'ai immédiatement pris mon stylo pour écrire un article. Ce n'était ni pour ni contre, mes idées, mes positions sont connues. Non, c'était pour dire que les territoires, des territoires libérés, ça n'existe pas. Le mot libéré n'existe que pour les humains. » On voit ce souci du mot là, Valérie Zanatti.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, ayant, je pense, été confrontée très tôt à l'utilisation idéologique du langage, voire à l'utilisation faite par la propagande, il tenait en permanence à cette lutte. Il disait également que les mots, lorsqu'on leur faisait dire le contraire de ce qu'ils signifient, devenaient des monstres. Et il poursuivait en disant que, par exemple, l'opération Paix en Galilée, plus tard dans les années 80, qui a mené à la guerre du Liban, était un terme mensonger qu'il fallait tout simplement appeler ça guerre du Liban, mais pas paix en Galilée. Voilà. Donc il luttait contre cette perversion des mots, et je pense qu'il avait là aussi un attachement peut-être à... On n'a pas évoqué cette partie-là de sa vie, mais il a étudié dans une école religieuse avec la poétesse Zelda, qui était son institutrice, et qui leur a donné, je crois, un rapport aux mots à la fois biblique et précis.
Marc Weissmann, peut-être réaction sur ce souci du mot.
Oui, enfin, ce sera une réaction limitée parce que je parle pas hébreu, donc. Mais le fait est que c'est une problématique très particulière en Israël. La renaissance de la langue hébraïque, la modernisation de la langue hébraïque, qui est allée avec de pair avec la création de l'État, allait aussi de pair avec la nécessité pour l'État à l'époque socialiste de formater la langue en fonction de l'objectif de la création d'État, et donc la dimension de propagande était incluse presque immédiatement dans la renaissance de la langue. Les écrivains ont écrit dans une tension pas très particulière entre les références à la Bible, à la littérature hébraïque antique, polysémique, et un hébreu en quelque sorte appauvri par la modernité, mais aussi par la propagande. Et Amos Oz était dans cette tension-là. Comment rendre à la langue ressusciter une dimension presque spirituelle, presque métaphysique.
Valérie Zanatti, ça sera ma dernière question. L'année s'était ouverte sur la disparition d'Aaron Appelfeld, dont vous étiez la traductrice, mais aussi très proche. Vous aviez de l'affection, de l'admiration pour lui. Et d'ailleurs, vous allez consacrer un livre dans le faisceau des vivants qui va paraître très bientôt, le 3 janvier. Donc c'est une année 2018 qui s'ouvre sur la mort d'Appelfeld, qui se ferme sur celle d'Amos Oz. Quels seraient selon vous les auteurs qui s'inscriraient dans une forme de filiation avec ces deux auteurs, et en particulier avec l'œuvre d'Amos Oz? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui des héritiers?
Alors je pense qu'il y a des gens qui se réclament de lui, comme Meir Shalev ou même Zeruiah Shalev, qui a sa propre manière d'écrire, mais qui se sent une filiation avec lui. Notamment, je crois, dans une définition que Amos Oz donnait de sa littérature, il disait « J'écris sur les familles malheureuses ». Et je pense que Zeruiah Shalev s'inscrit aussi dans ce sillon-là, qui reste très intimiste et pas idéologique, finalement. Concernant Aaron Appelfeld, je pense que on pourrait peut-être en parler plus longuement, mais il ne me semble pas qu'il ait particulièrement d'héritier. Alors qu'Amos Oz, il faudrait chercher de ce côté-là, oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Valérie Zanatti, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc dans le faisceau des vivants qui va paraître chez l'Olivier le 3 janvier prochain. Un grand merci à vous également, Marc Weissmann, d'avoir été avec nous. Je rappellerai vous concernant Un temps pour haïr, qui était paru chez Grasset, c'est ça?
C'est ça, oui.
Merci beaucoup.